Donc, je vous disais que j'ai actuellement 43 ans, je suis cadre infirmier, je dirige cette maison de retraite, ce qui est une volonté pure, puisque j'aime beaucoup les personnes âgées et que je trouve un petit peu toute la profondeur de mon métier au sein des personnes âgées. J'ai eu malheureusement dans ma vie plusieurs étapes difficiles qui m'ont permis de progresser à la fois dans mes valeurs et dans mes concepts, et qui m'ont donné une certaine école de vie qui me permet actuellement d'avoir une autre idée de ce qu'est de la vie, une autre approche. Bon, la première, comme je vous disais, c'était malheureusement un divorce en 1995, après 18 ans de mariage. Ce divorce a été malheureusement suivi de la mort de mes parents, à 2 mois d'intervalle, décès qui est survenu, je dirais, dans un contexte suite au divorce. Mes parents... J'ai divorcé à l'âge de 40 ans, mes parents ont vécu ça vraiment de façon très difficile et ça les a quelque part amenés tout doucement à un cheminement de fin de vie. C'était vraiment la première grosse étape de ma vie parce qu'ils étaient jeunes, ils avaient 62 ans tous les deux. Et j'ai vécu ça vraiment seule à l'époque, divorcée premièrement et fille unique. Donc j'ai supporté un peu le poids et je sortais juste d'un milieu pénitentiaire où j'avais fait 3 ans d'exercice. Et là aussi, je dirais que c'était une école de vie qui m'a permis bien souvent à savoir et à apprendre à me taire avant de juger. Parce que malheureusement, on est parfois amené à porter beaucoup de jugements de valeur sans savoir où l'on va et ce qu'on fait. Et ces 3 ans d'exercice en milieu pénitentiaire m'ont appris beaucoup. Ma vie n'a pas été faite que d'échecs. Bon, en particulier, j'ai 2 enfants qui me permettent quand même d'avoir un rebond. Suite à ce divorce, j'ai rencontré quelqu'un qui, je l'avouerai, quelqu'un de charmant, mais qui souffre d'une maladie de longue durée, un diabète insulino-dépendant. Quand j'ai rencontré cette personne, elle était, je dirais, renfermée sur elle-même, puisqu'elle aussi divorcée. Bon, ça, malheureusement, à l'époque actuelle, c'est plus une tare. C'est malheureusement très fréquent. Par contre, c'est quelqu'un qui souffrait de sa maladie pour la bonne raison que sa maladie n'avait pas été acceptée par sa famille. Donc mon ami a lui aussi 44 ans et quand je l'ai connu, il cachait sa maladie comme une maladie honteuse. Alors c'est vrai que moi en tant que professionnelle de santé, ça m'a beaucoup choquée. De un, qu'on puisse à tel point le rejeter parce qu'il était malade, entre guillemets. Et de deux, de voir un petit peu toutes les difficultés que ce rejet entraînait. Parce qu'en fait, il se cachait de sa maladie, ce qui l'entraînait à faire des fautes qui étaient néfastes pour son diabète. Donc j'ai cherché un petit peu à comprendre au niveau de la famille ce qui se passait, parce que bon, je ne comprenais pas pourquoi ils n'osaient pas en parler. Et je me suis rendu compte en fait que cette maladie du diabète est une maladie héréditaire. Et en fait, toutes les personnes de la famille craignaient plus ou moins, elles aussi, d'être atteintes un jour ou l'autre du diabète. Alors la meilleure façon, bien entendu, d'éviter le diabète, c'était de ne pas en parler, de s'en cacher. Donc j'ai fait un long travail au niveau de la famille, d'abord auprès de lui, mon ami, pour qu'il accepte de parler naturellement de son diabète. Il travaille, c'est quelqu'un qui travaille 14 heures par jour, hein, qui travaille lourdement, difficilement. Il n'a jamais rencontré de problème dans son travail. Enfin, il y a quand même quelque chose à signaler qui est important, c'est que la médecine du travail lui a demandé de ne jamais parler de son diabète à son employeur. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez grave, qu'il faut encore noter, parce qu'on rentre en l'an 2000 quand même. Pour qu'il ne puisse pas être embêté, parce qu'il il conduit toute la journée, donc c'était le problème majeur. Et en faisant une approche et un travail avec lui, j'ai réussi à lui faire comprendre que sa maladie était l'affaire de tous, mais pas l'affaire uniquement de sa personne. Et j'ai réussi à faire un travail de longue haleine en lui faisant comprendre que son diabète ne pouvait que mieux supporter que si la famille l'acceptait, et que si tout le monde jouait un petit peu le jeu du diabétique. Donc ça, je peux vous dire que c'était un travail qui a été difficile. Premièrement, lui faire changer ses habitudes, c'est-à-dire savoir dire aux gens, bon, ben, telle chose, je ne peux pas la manger. Parce que ce qui est stupéfiant quand même, c'est que dans la famille, tout le monde le savait. Tout le monde le savait et tout le monde voulait l'ignorer. Donc c'est quelque chose d'encore plus grave. Donc on faisait très facilement des écarts alimentaires. En particulier, le propre frère de mon ami est un sportif... qui fait à peu près 250 à 300 km de vélo le dimanche, mais ça ne le gênait pas de se présenter à un repas de famille à 3h de l'après-midi. Donc tout le monde attendait que ce monsieur arrive pour prendre le repas, mais tout le monde savait très bien que ça portait préjudice à mon ami, mais personne ne disait rien. C'est manger sa liberté un petit peu pour pouvoir évoluer. Donc à partir de là, je dirais que j'ai réussi à faire un travail qui a été long, important, aidé du diabétologue quand même à l'époque, qui était quelqu'un, une dame formidable, et qui a très bien compris, qui avait très bien compris depuis des années ce qui se passait, mais elle n'avait jamais pu réussir à rentrer en contact avec la famille pour faire comprendre que le diabète était déséquilibré à cause de ça. Alors, premier gros travail, faire comprendre à la famille que, ben, en se surveillant, le diabète n'était pas une fatalité, sûr que les complications ne sont pas luxuriantes, mais en se protégeant et en ayant un diabète très équilibré, on évite toutes ces complications. Et de deux, faire admettre à mon ami que, bon, il fallait qu'il prenne des dispositions pour mieux se soigner. Alors, en l'occurrence, il avait jusqu'à présent refusé les deux piqûres, alors qu'elles étaient importantes, parce que pour lui, faire sa piqûre le matin au lever, c'était quelque chose de très protecteur parce que personne ne le voyait. Donc s'il se déplaçait dans la journée, il n'était pas amené à faire une autre piqûre, donc à dire aux gens « j'ai besoin de m'isoler pendant 5-6 minutes pour faire une piqûre » parce qu'il n'osait pas en parler. Donc rapidement, avec la diabétologue, nous sommes passés à 2 injections. Son diabète s'est tout de suite mieux équilibré. Et à partir de là, il a osé en parler avec la famille, et c'est vrai que j'ai vu, si vous voulez, bon, certaines personnes refusent encore hein, cette maladie, c'est clair, en particulier son frère, hein. Mais au niveau de ses oncles et tantes et toutes les personnes qui sont le plus proches de lui, on s'est un petit peu amené à plus le protéger, à plus l'écouter et à faire attention à lui. C'est-à-dire donner un tout petit peu de son temps et de sa vie pour lui permettre à lui de ne pas acquérir de complications. Alors ça, ça m'a paru quelque chose de facétieux, mais nous y sommes arrivés. Le premier combat que j'ai gagné, c'est envers son petit garçon, qui était âgé de 12 ans et qui ne savait pas du tout que son père était diabétique. Ce qui fait que lorsque l'on partait en vacances, eh ben, il se cachait pour effectuer ses glycémies capillaires et pour effectuer ses injections. Donc j'ai fait un petit travail avec cet enfant qui s'était bien rendu compte de certaines choses, mais qui n'avait posé aucune question jusqu'à présent. Alors c'est d'autant plus grave que ce petit garçon a lui aussi des prémices de diabète. Depuis des années, et que bon, il a fallu un petit peu faire comprendre qu'il fallait qu'il ait une certaine éducation, une certaine école de vie pour lui permettre justement de ne pas devenir, de ne pas basculer dans le diabète. Trois enfants, sur ces trois enfants, deux sont prédiabétiques. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors c'est vrai que ça paraît peut-être simple comme histoire, mais c'est malgré tout une histoire qui me tient à cœur parce que je n'aurais pas pensé qu'on puisse ainsi, par manque d'amour, par manque de reconnaissance, laisser une personne malade s'enfoncer dans sa maladie par non-reconnaissance de celle-ci. C'est vrai que ça me choque d'un point de vue soignant. C'est une chose qui touche ma vie personnelle. Mais pour avoir travaillé en milieu hospitalier, j'ai vu bien des personnes se laisser diminuer, se laisser régresser et voire se laisser mourir parce qu'elles n'avaient pas de contact avec leur famille. La chose la plus difficile que j'ai vue, c'est en travaillant auprès de malades sidatiques. Parce que la plupart des malades sidatiques, malheureusement, étaient ou homosexuels ou, comme vous le savez, toxicomanes. Et la peur d'en parler à leur famille a été, à long terme, la peur de leur annoncer la maladie, donc mourir seul. Alors ça, je trouve ça très grave. Quand on n'ose pas parler, peut-être qu'on n'a pas la franchise d'évoquer ses problèmes à sa famille, mais je pense que la famille doit savoir aussi quelquefois savoir relancer la balle à quelqu'un qu'on sent en difficulté et pas vivre chacun dans son petit cocon, dans son petit nombrilisme, et puis continuer à vivre comme ça en voyant qu'il se passe plein de choses autour de nous en étant assez égoïste pour pas voir l'autre, pour pas découvrir l'autre. Et quand on peut partager, je pense qu'on est d'autant plus heureux. C'est un petit peu l'école de vie que j'ai appris en pénitentiaire. Ça m'a permis de comprendre certaines choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'apprendre à me taire, de ne plus porter de jugement de valeur, encore que quelquefois ça m'arrive. Je n'en suis pas très fière, mais quelquefois j'ai certains jugements de valeur, mais je reviens toujours en arrière sur ce que j'ai vécu. Et ça me permet de dire que, mettant à part mon éducation catholique, hein, qui est tout à fait personnelle, je pense qu'on vit actuellement dans un monde égoïste, où chacun vit pour soi, où chacun pense un petit peu à son propre plaisir, à sa propre façon d'évoluer dans la vie, en s'imaginant que l'on peut vivre heureux sans penser à l'autre. Or, je pense qu'on ne peut être heureux que quand on est aimé, et on est aimé que quand on donne. Alors, il faut savoir recevoir, il faut savoir donner, il faut savoir travailler sur tous les tableaux. Alors ça, c'est un petit peu pourquoi j'aime la gériatrie. parce que c'est le milieu où on se sent le mieux. Parce que les personnes âgées ont beaucoup de demandes, beaucoup d'amour en attente, mais ils savent tellement donner. Et quand on les écoute, quand on les regarde, ils se placent plein de choses. Et croyez-moi, il ne faut pas prendre un petit peu la personne âgée comme une personne en fin de vie. Il faut prendre la personne âgée comme une personne qui a une certaine étape de la vie, étape que nous allons connaître nous aussi. Et la meilleure façon de comprendre ce qui se passe, c'est de les aider dans leur cheminement. Et c'est ce qui permet à la personne d'avoir moins peur pour plus tard. C'est vrai qu'on a tous peur de vieillir. C'est pas facile de regarder une personne âgée en face. Vous avez fait l'expérience de deux personnes que vous avez vues. En plus, je dirais qu'on a facilement un report, un transfert. On pense à sa grand-mère, on pense à son père. On pense à plein de choses, on pense à des personnes qu'on a perdues, on a un peu peur de l'avenir parce que c'est pas toujours facile de regarder une personne âgée en face. Mais quand on les écoute et qu'on leur consacre un certain temps, on se rend compte qu'ils ont tellement de choses à donner que ces choses vous permettent, vous, d'évoluer dans votre vieillissement sans avoir peur. Et ça, c'est quelque chose d'important à mon avis.
Alors, j'imagine que moi, en travaillant par exemple dans ce milieu où ce sont des personnes âgées,
oui.
On y pense quand même, je pense quand même à la mort.
On pense à la mort, oui.
Et comment on peut faire, comment vous arrivez à dépasser ce stade?
À dépasser ce stade de la peur de la mort.
Ça vous touche forcément. Une personne part, vous êtes touché.
Tout à fait. C'est vrai que l'adage qui dit qu'une soignante, en vieillissant, elle devient de plus en plus dure au mal, c'est faux. Parce que je peux vous dire que plus je vieillis, ça fait maintenant 23 ans que j'exerce, plus il m'est difficile d'accepter la mort et plus je vois partir un être cher difficilement. Ça fait partie de mon métier, la mort. Donc il faut que je relativise ça comme étant le dernier acte, la dernière chose que je vais offrir à la personne qui est là en train de mourir. Donc je l'accepte en tant que telle, parce que c'est pas parce que la personne est morte que je n'ai plus de service à lui rendre. J'ai un dernier service à lui rendre, c'est l'ensevelir et l'aider à passer le pas. Ça peut être aussi tout simplement à l'aider à franchir le pas dans ce qui est le travail de deuil. Alors bon, le travail de deuil, je ne vais pas l'aborder ici parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais il y a quand même 5 étapes difficiles à franchir dans le travail de deuil. Le dernier étant l'acceptation, et l'acceptation, c'est ce qui permet à la personne de passer le cap plus facilement. Qu'elle soit, je dirais, dévote ou qu'elle ne le soit pas. Chaque personne a un travail de deuil à faire. L'important pour moi, quand une personne est en fin de vie, c'est de savoir lui dire au revoir, c'est-à-dire d'accepter le fait qu'elle nous quitte. Quand on accepte qu'une personne vous quitte, vous savez lui dire au revoir. Quand vous savez lui dire au revoir, tout se passe très bien. Le difficile dans le travail de deuil, c'est de ne pas savoir dire au revoir à une personne et de perdre un moment important qui vous oblige pendant tout le reste de votre vie à vous dire « Est-ce que j'ai pensé à lui dire que je l'aimais ? Est-ce que j'ai pensé à lui dire que c'était quelqu'un d'important ?» Quand vous êtes capable de le faire à un moment donné quand la personne est en train de mourir, c'est ce que j'ai fait avec mes parents. Le deuil est là, monsieur. Vous souffrez toujours de l'absence. Mais vous savez que vous n'avez pas perdu les derniers moments et que vous avez pris le temps de dire au revoir à la personne et surtout que vous l'avez laissée partir en paix. Parce qu'elle sait que vous avez accepté qu'elle s'en aille. Alors la peur de la mort, je ne peux pas dire que j'ai peur de la mort, non. Par contre, j'ai peur de souffrir. La mort, j'en ai pas peur. Parce que j'ai l'impression, si vous voulez, par l'éducation que j'ai reçue, que bon... pour parler un peu crûment et je dirais le plus simplement possible, je pense que tout le monde est bien là-haut parce que personne ne redescend. C'est un petit peu ma protection que j'ai. Puisque personne ne revient, je pense qu'on doit y être bien. Bon, j'ai cette éducation catho qui me fait croire en l'au-delà. Par contre, j'ai peur de souffrir. Et la soignante que je suis a d'autant plus peur qu'une autre personne parce qu'on relativise les choses et on connaît les choses, on sait ce qui va se passer. Ce qui fait que dans mon tempérament de soignante, je suis quelqu'un qui veut éviter la souffrance, qu'elle soit morale ou qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. Et c'est vrai que je pense qu'on est à une époque actuelle où on peut éviter à une personne de souffrir. Donc, peur de la mort, non, peur de souffrir, oui.
Et c'est ce que vous avez essayé, ou vous avez essayé de faire avec votre ami?
Tout à fait.
Toujours d'essayer d'éviter la souffrance.
Parce qu'il était en pleine souffrance morale et qu'on dérivait petit à petit vers une souffrance physique. Parce que son diabète était tout à fait déséquilibré, qu'il commençait malheureusement à avoir certaines complications qui pouvaient être graves à l'avenir. Mais c'était un travail un petit peu, comme je vous l'ai dit, de longue haleine, mais qui m'a renforcée un petit peu dans ce que je pense par rapport à mes concepts et à mes valeurs. Bon, c'est vrai que le principal de mes concepts est le respect, et ça c'est quelque chose contre laquelle je n'arrive pas à déroger. Nonobstant, il n'y a rien à faire. Il faut que j'ai ce respect, même si je suis face à une personne qui me pose problème, qui n'est pas respectueuse, je vais toujours essayer de ramener sur le respect. Et puis, le premier respect que j'ai et la première cause de remerciement que je peux évoquer, c'est envers mes parents, parce que je suis une fille d'ouvrier, vraiment une fille d'ouvrier. Et que mes parents se sont battus pour que j'obtienne mon baccalauréat dans des conditions très difficiles, puis mon diplôme d'infirmière et après mon école de travail. Ça a été vraiment pour eux un sacrifice, et ça, je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas oublier et qui reste un petit peu dans toute ma vie, qu'elle soit intime ou qu'elle soit professionnelle, c'est ce respect. C'est vraiment quelque chose d'important. Parce que je pense que sans respect, comme sans amour, on n'évolue pas dans la vie, c'est pas possible. On ne peut pas être marginal de la vie, de la société, de son voisin, sans qu'un jour, quelque part, ça nous retombe un petit peu sur nous et que ça nous complique un peu la vie.
Donc c'est une reconnaissance que vous avez
envers
les autres.
Tout à fait.
Et que vous espérez avoir peut-être.
De toute façon, si je donne, c'est parce que j'espère beaucoup recevoir et que je suis une soignante, donc ma vie est basée sur le contact. Donc automatiquement. Il y a des jours où je ne suis vraiment pas en forme, comme tout le monde, mais quand je ne suis pas en forme et quand je suis agressive, parce que ça m'arrive d'être agressive, parce qu'il y a des moments où ça ne se passe pas bien, ou parce qu'il y a des moments où c'est le jour de l'anniversaire de la mort de ma mère, ou parce que j'ai un enfant malade, ou bon, si je suis agressive, je vais essayer toujours de revenir m'excuser, en m'expliquant plus ou moins avec ce que je peux dire. Bon, je suis dans une mauvaise période, je ne suis pas bien, je sais très bien que je n'ai pas été comme il fallait, je vous prie de m'excuser. Je pense que ce n'est pas difficile. De venir auprès de quelqu'un et de s'en excuser en disant, même quelquefois avec les personnes âgées, quelquefois je suis vraiment débordée de travail et elle me demande 5 minutes, bon j'ai maintenant, à 43 ans, je veux dire j'arrête. Ah, si elle a envie de me parler, bah tant pis, je pose là le dossier, j'attends 5 minutes. De toute façon, si elle a envie de me parler, je peux faire ce que je veux, mais elle obtiendra de me parler. Donc autant que j'arrête tout de suite et que je lui parle et que je lui consacre 5 minutes. Je pense que j'ai gagné pas mal de temps pour plus tard. Parce que si je ne lui accorde pas les 5 minutes maintenant, elle va revenir plusieurs fois dans la journée. Donc automatiquement, je perdrai beaucoup plus de temps à ne pas l'écouter qu'à l'écouter pendant 5 minutes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, je dirais, au cours de mes années de profession. Parce qu'au départ, quand on est jeune, et ben, on est un petit peu pétant, on est un petit peu impulsif. Et puis l'école de vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous apprend que bon, il y a certaines choses à respecter, certaines choses à ne pas dépasser non plus. Hein. Il faut savoir protéger la bulle des autres, vous savez, le fameux triangle de substantation, il faut savoir le protéger. Moi, j'aime pas qu'on touche au mien, donc je ne vais pas toucher non plus à celui des autres. Pourtant, je peux vous dire que je sais énormément de choses sur la vie privée des résidents ou parfois sur la vie privée du personnel, parce que bon, je suis la plaque tournante et je dois savoir tout écouter, à la fois aussi un petit peu assistante sociale. Mais je ne dérogerai pas à ce qu'on m'a dit si on m'en a demandé le secret. Et ça fait aussi partie d'une certaine école de vie. Bon, vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on vous apprend à l'école, hein, monsieur. C'est quelque chose qu'on vous apprend dans la vie de tous les jours. Mais pour avoir été, je dirais, moi-même éprouvée dans ma vie personnelle lors de mon divorce, où tout à chacun s'est mêlé de cette histoire en essayant ou de me donner des conseils ou donner des conseils à mon ex-mari qui, pour tout vous avouer, est un homosexuel. Bon, je ne pense pas qu'il y avait de conseils à donner ni à l'un ni à l'autre. La vie, il fallait qu'elle se fasse. Il était comme ça, il était comme ça. Je ne pouvais rien changer. Il passait le cap de ma quarantaine, il fallait l'accepter. Moi, je l'ai accepté. Dans mon entourage, on n'a pas forcément accepté. Et je regrette que les gens s'en soient mêlés. Parce que je peux vous dire qu'après maintenant 4 ans de divorce, on est vraiment restés de grands amis. Et pour les enfants, ça se passe très bien. Et c'est le principal dans cette affaire. Donc là aussi, je vous dis, c'est une école de vie qui m'a permis bien souvent de respirer un grand coup et de repartir. Il y a forcément des moments difficiles, c'est clair. Mais la chose la plus importante, c'est que moi, j'ai rééquilibré ma vie, que mes enfants se trouvent tout à fait bien équilibrés malgré la situation de leur papa et que je m'éclate dans mon travail. Donc je pense qu'à partir de là, je pense que vous voyez un petit peu comment ça se passe dans cette résidence, vous voyez que ça se passe plus ou moins bien. Je pense que je suis arrivée à un moment où j'ai envie de poser mes valises. Et oui, j'ai envie d'être tranquille et de pouvoir un petit peu profiter à la fois de mon travail, de ce métier que j'ai choisi, vraiment volontairement, et de vivre un petit peu paisiblement pour que ça se passe bien pour le reste du temps qui va s'écouler, qui, je l'espère, sera le plus long possible, si Dieu le veut.
Très bien. Une dernière question.
Je vous en prie.
Dans votre vie, il y a un moment, donc, hormis le divorce, hormis
les deuils,
également... faire accepter à cette personne sa maladie. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des choses également qui vous a pas forcément personnel,
oui,
mais qui vous a vraiment ému,
qui m'a ému,
qui vous a fait réagir?
Oh, je me souviens de... Malheureusement, ça fait encore partie de ma profession, mais ça va toujours être ça. Bon, parce que c'est vrai que c'est toujours la soignante qui va parler. Je me souviens d'une situation très ridicule que j'ai vécue dans ma vie professionnelle. Je me souviens d'un enfant de 7 ans qui est mort sous mes genoux d'un cancer des reins alors que j'étais à 2 jours d'accoucher de mon premier enfant. Et je me souviens que j'ai vécu ça comme un traumatisme en me disant que, quelque part, j'étais une bonne à rien. Et que mes 5 années d'études après le bac ne me permettaient pas de pouvoir aider cet enfant à continuer à vivre. Et c'est vrai que sa tête posée sur mon gros ventre, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Jamais. Et cet enfant a choisi le moment où sa mère s'est absentée 30 minutes pour aller prendre une douche à l'extérieur pour mourir, pour que sa mère ne souffre pas. Et quand sa mère est revenue, tout était fait. Et là, c'est vraiment une situation ridicule où j'ai essayé de me remettre en question. Et une forte de mes valeurs et de mes concepts, je me suis dit, ben oui, c'est un échec, mais l'échec fait partie aussi de ta profession. Et si tu n'es pas capable d'accepter l'échec, que tu ne veux que des félicitations et que des louanges, c'est pas la peine de continuer, vaut mieux que tu t'arrêtes. Alors la vie, c'est aussi fait d'échec. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais il y a des autres réussites dans la vie, pour tout vous dire. Comment je fais pour rester sereine, pour pas péter un plomb? Eh bien, je vais vous dire, je fais de la moto. Ma passion, c'est la moto. Et il n'y a rien de tel que de mettre ses bottes, son casque et son blouson et d'aller sur sa moto, faire quelques kilomètres, se faire bien décoiffer. Et à partir de là, on revient plus disponible. Mais moi, j'ai trouvé un moyen. Et mon moyen, c'est la moto. Alors, c'est vrai que quand vous voyez dans mon petit tailleur, avec mes petites chaussures à talons, ça vous paraît certainement difficile à évoquer. Mais croyez-moi, mes agents ont pris l'habitude... Mes personnes âgées aussi, vous voyez, je dis mes personnes âgées. Les personnes âgées aussi, ils voient sortir la moto, ils voient madame avec le casque, ils savent qu'elle est partie décompressée, qu'elle revient certainement mieux que quand elle repart, parce qu'elle a tout relâché d'un seul coup.
C'est un exutoire.
Ah, tout à fait, tout à fait. C'est un exutoire, comme vous dites, qui est important, et bon, comme mon cocooning est important. Donc c'est vraiment, c'est un des moyens. Bon, c'est sûr que j'aime faire du sport, j'aime faire du footing, J'aime marcher, mais ce qui me permet vraiment de décompresser complètement et d'oublier tout autour de moi pour revenir en forme, c'est ça, c'est la moto. C'est vraiment un truc, une passion. Et comme c'est une passion aussi qui est propre aussi à mon ami, et bien on a passé là, à 40 ans, tous les deux le permis. Et je dirais que c'est un vieux fantasme que j'ai mis à jour et que j'ai réalisé à 40 ans. Comme quoi, la quarantaine, on dit toujours que c'est un cap dans la vie. Moi, je l'ai très bien passé, puisque j'ai eu mon permis, j'ai eu ma moto. Donc, vous voyez, quelque chose de bien. Je ne sais pas s'il y a une question à laquelle je peux encore répondre.
Je n'en vois plus, vous avez très très bien parlé, ouais. C'était émouvant.
Ah, il y a des choses difficiles dans ma vie professionnelle, mais bon...
J'ai une
certaine émotion. Là, je suis quelqu'un de limbique, ça c'est clair. Je ne peux pas empêcher. D'abord, je suis une femme, donc je peux pas être une cartésienne, je suis une limbique. Mais c'est quelque chose qui parfois me joue des tours dans ma profession. Parce que bon, c'est vrai qu'en étant limbique, les gens savent un petit peu utiliser mon côté humain. Et il faut que je me trouve, comme vous dites, un exutoire. Et l'exutoire, c'est la moto.
Voilà. La grosse moto.
Oh oui, c'est une 750, une grosse, oui. Mais bon, disons que c'est un moyen. C'est vrai que je suis partie 8 jours avec mon ami quand les enfants avaient les enfants en études supérieures. On est parti 8 jours dans le Jura. On s'est éclaté. Je suis revenue gonflée à bloc. Et en fait, mon pôle, c'est de me dire bon, dans combien de temps je vais repartir. Et c'est ce qui me permet le matin quand je me lève. C'est vrai, quand je me lève, je me suis jamais dit oh là là, quelle corvée, il faut que j'aille au boulot. Déjà, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que quand je sors le matin de mon appartement, je sais qu'il faut que je fasse abstraction. Je vis là, hein, je vis sur place. Il faut que je fasse abstraction de tout ce qui est derrière moi. Il faut que j'avance. Et dès que j'ouvre la porte, je me trouve en contact avec les personnes âgées. Et il faut que je sois assez forte pour, pour savoir sourire, pour savoir écouter, pour savoir les aider. Il ne me viendrait pas à l'idée d'arriver avec une mine des conflits, parce que je pense que c'est pas le but de la professionnelle de santé. Et même si c'est difficile, il faut que j'arrive à le dire. Aujourd'hui, je suis vraiment pas en forme, j'ai des soucis. Parce qu'ils sont tout à fait capables de l'entendre et ils sont contents de voir qu'il y a des gens aussi qui ont des soucis comme eux. Il faut savoir partager les choses. Ça, je l'ai appris. J'espère que j'en apprendrai encore beaucoup, monsieur. Parce que des gens comme monsieur et monsieur madame sont des gens qui vous apprennent plein de choses. Parce que quand vous écoutez, je ne sais pas si ils ont parlé de leur vie, mais c'est une hécatombe hein, pour tous les deux. C'est plein pot de souffrance.
C'est vrai que c'est du passé,
oui.
Mais ça reste
très présent.
C'est paradoxal, mais c'est...
Tout à fait. Et ce qui est important de voir monsieur, quand on connaît un petit peu sa vie, quand on connaît ses deuils, voir une personne qui est riche de tant d'espoir... et de tant de, je dirais, de qualité de vie, c'est quand même impressionnant. Parce que quand je parle à monsieur, il me dit « Oh là, j'ai encore eu des mauvaises nouvelles aujourd'hui, ma puis bon, il me dit « Oh, voilà ce qui se passe encore avec mon fils, avec ma belle-fille. » Bon, ça fait rien, de toute façon, je suis là, il faut avoir le moral, et puis il n'y a pas de raison. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un de très dévot aussi, voilà. Il trouve sa source et sa lumière dans la foi qu'il a. Bon, il sait quelque part, je la partage un peu cette fois. Et bon, au bout, je me dis, pourquoi je vais me plaindre, moi, quand je vois quelqu'un de cet âge-là qui a tant d'espoir et tant de richesse à donner, j'ai pas le droit. Ça aussi, c'est une école, hein, je dirais, de se trouver face à des gens qui en ont pris, je dirais, si vous permettez l'expression vulgaire, plein la figure pendant des années et qui sont capables de vous donner de l'espoir. Vous soufflez un grand coup, vous dites « Oui, j'ai pas le droit de me plaindre, là, il faut que je sois plus forte que
c'est
ça. »
Ah,
c'est une école de vie qui est formidable. Vous la trouvez que là, hein, au sein des personnes âgées en gériatrie. Hein. Il n'y a qu'à ce niveau-là que vous trouvez cette force. Mais évidemment, vous avez des gens qui baissent les bras. Mais quand vous avez quelqu'un comme monsieur ou madame qui sont capables de vous redonner l'espoir, vous êtes capable de le faire passer à quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous dis, le partage. Tandis que chez Sakar, est-ce que dans son petit coin à se plaindre, on n'évolue pas.
C'est parfait.
Voilà.